Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Mardi 28 juin,
l'info sur RMC.
Il est 6h sur RMC, excellent réveil à vous tous, c'est l'heure du journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour à tous, le pouvoir d'achat, la barre symbolique des 100€ pour faire le plein dépassé et on connaît les contours du nouveau chèque alimentaire pour la rentrée. La 7e vague de Covid est là, on en parlait à l'instant, la ministre de la Santé recommande de remettre le masque dans les transports. Et puis Julien Alaphilippe contraint de passer son tour, son équipe ne l'a pas sélectionné pour participer au Tour de France qui démarre vendredi.
L'inflation pourrait frôler les 7% à la rentrée. Le gouvernement va à nouveau sortir le chéquier.
Et en plus de la loi pour le pouvoir d'achat, une aide donc sera versée en urgence sur le compte en banque des 9 millions de foyers bénéficiant des minima sociaux. Les détails pour RMC avec Romain Cluzel.
9 millions de foyers devraient toucher ce chèque alimentaire. Selon les Échos, le montant initial devrait être de 100€ et 50€ supplémentaires pour chaque enfant. Seraient concernés les bénéficiaires de différents minima sociaux, le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse et les APL. La facture pour l'État s'élèverait à 1 milliard d'euros. C'est une piste de travail, tempère une conseillère d'Elisabeth Borne. Selon Matignon, le dispositif pourrait être modifié après les échanges de la Première ministre avec les chefs de groupe à l'Assemblée prévus cette semaine. Quoi qu'il en soit, cette aide ne fera pas partie de la loi pouvoir d'achat et sera actée par un décret. Elle pourrait être délivrée dès le mois de septembre en virement direct sur les comptes des personnes concernées.
La cote d'alerte sur les comptes publics est déjà largement dépassée, dit ce matin dans les Échos Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, qui sera l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Parmi les dépenses qui pèsent le plus dans le budget des Français, il y a évidemment le carburant. Beaucoup d'automobilistes voient s'afficher les plus de 100€ à la pompe pour un plein. Reportage dans une station-service de l'Ain à Massieu, Vincent Chevalier pour RMC.
Essence ou diesel, même combat. Pour ces automobilistes, la facture sera salée.
Là, normalement, on dépassait 100€.
110, 120.
145€.
Oh, je pense 150€ à peu près.
Impossible de se passer de la voiture au quotidien. Il faut donc faire avec.
10% de mon salaire, donc ça commence à piquer.
Je peux plus me permettre un déplacement inutile, quoi.
Ça se ressent sur mon budget personnel.
Notamment le budget vacances. Laetitia et sa famille partiront, mais en France, et avec un œil sur la jauge essence de la voiture.
On la laissera sur le lieu de vacances et puis on marchera peut-être un peu plus.
Par contre, pour Gérard, des vacances cet été.
Il y en a point.
Se retraiter de 70 ans, n'a pas les moyens.
À cause de la conjoncture actuelle, vous payez. Donc des vacances, cette année, il n'y en a pas.
Des automobilistes défavorisés par le contexte international, entre le prix élevé du baril et l'arrêt des importations de pétrole russe, le carburant devrait rester cher ces prochaines semaines. Francis Pousse, président national station-service chez Mobilience.
Cher à des niveaux de prix comme on a aujourd'hui, tant que l'ensemble des pays européens n'ont pas réussi à retrouver d'autres approvisionnements de produits raffinés, entre autres.
Difficile de s'en rendre compte, mais la remise gouvernementale de 18 centimes à la pompe est toujours en place. Elle a même été prolongée jusqu'à fin août.
6h03 sur RMC, Elisabeth Borne réunit aujourd'hui les préfets et les directeurs des agences régionales de santé. La première ministre va évoquer avec eux la situation épidémique du Covid qui est marquée par une nette reprise des cas de contamination. Ça augmente partout depuis 3 semaines. Hier, la future ex-ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a réagi et a invité à remettre le masque dans les transports. Bruno Lina, membre du conseil scientifique, est sur la même ligne.
Les taux d'incidence sont plus élevés dans l'ouest de la France que dans l'est de la France. Par rapport aux tranches d'âge, celles qui sont le plus touchées, c'est entre 20 et 60 ans. Les cas qui sont hospitalisés sont plutôt les plus de 60 ans et surtout les plus de 80 ans. Si on souhaite que la durée de l'épidémie soit plus courte, il est utile de reporter le masque, de se relaver les mains, de reprendre un tout petit peu de distanciation, moins se faire la bise. Tous ces micro-événements vont réduire le taux de transmission.
Le ministre des Solidarités contre-attaque, Damien Abad, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse après l'ouverture d'une procédure à son encontre. Une élue centriste accuse Damien Abad d'avoir tenté de la violer en 2010. Elle a porté plainte. Maître Benoît Chabert, avocat de Damien Abad, estime impossible les faire reprocher à son client.
Une plainte va être déposée en dénonciation calomnieuse contre cette personne, car les faits qu'on peut lire sont absolument faux. Et donc, il va pouvoir enfin s'expliquer devant la justice. Il va pouvoir expliquer en quoi les faits qu'on peut lire dans un article de presse sont impossibles et en quoi il n'a jamais commis les accusations immondes qui sont proférées contre lui. Ce qui est terrible, c'est qu'on demande à un homme de se défendre en parlant de son handicap. C'est effrayant, c'est immonde. Et objectivement, son handicap rend impossible les faits dénoncés.
6h05 sur RMC, un bilan terrible aux États-Unis. Au moins 46 personnes ont été retrouvées mortes à San Antonio, au Texas, dans un camion transportant des migrants. Au total, 62 personnes se trouvaient à bord de ce semi-remorque qui n'était pas climatisé. Les survivants, 16 au total, souffraient de coups de chaleur. Il n'y avait pas d'eau dans le véhicule. Indignation au G7 en Allemagne. Les 7 grandes puissances ont dénoncé un crime de guerre après la frappe russe qui a visé un centre commercial à Kremenchuk. Au moins 16 victimes. Le récit de l'envoyé spécial de RMC sur place, Caroline Philippe.
Ici, il ne reste plus rien. Ce centre commercial n'est plus qu'un amas de décombres. Les pompiers découpent les plaques de tôle complètement déformées par la chaleur. Ils sont 160 sur place pour déblayer. C'était l'un des plus grands centres commerciaux de la ville, en plein cœur de Kremenchuk, très bien desservi par les transports. L'incendie est éteint, mais il était très virulent. C'est ce qui explique pourquoi les pompiers sont très pessimistes. Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants dans les décombres, me confiait l'un d'eux. Ce centre était bondé au moment de l'attaque. Le président Zelensky parle de 1000 personnes. Les secours espèrent que la sirène qui a retenti quelques minutes avant l'attaque ait pu permettre à certains de s'échapper. Mais quoi qu'il en soit, ils craignent un bilan très lourd. Ce n'est pas la première fois que la ville est touchée. Le dernier bombardement date du 18 juin dernier. Mais les Russes avaient alors visé une raffinerie la plus grosse du pays, un lieu stratégique, contrairement à ce centre commercial où il n'y avait que des civils.
Il comprend, mais il est déçu. Julien Alaphilippe ne prendra pas le départ du Tour de France vendredi au Danemark. Le double champion du monde n'a pas été sélectionné par Quick-Step Alpha Vinyl, son équipe. Une décision normale et logique pour Cyril Guimard, consultant cyclisme pour RMC Sport.
Je pense qu'il était sage pour son équipe de le préserver, de lui laisser le temps pour revenir au plus haut niveau de sa condition physique. Là, il a à peine 5 semaines d'entraînement avant le départ du Tour. Il n'aurait pas été sage qu'il prenne le départ du Tour, mais pour remplacer Alaphilippe dans le calendrier français, d'abord, c'est pas possible. Ou alors, il faut gagner le Tour.
Et puis ce chiffre délirant qui nous montre que le cinéma va pas si mal. Top Gun dépasse le milliard de dollars au cinéma et prend la tête du box-office mondial. En France, plus de 4 millions de personnes l'ont vu.
Dont moi.
Ouais. Dont moi, Pauline.
Aïe.
Ça a engrangé un chiffre d'affaires de plus de 36 millions d'euros.
J'ai adoré. Non, mais j'ai adoré ce cinéma assumé, j'ai adoré ce côté grand spectacle, j'ai même adoré le côté très américain d'un film qui fait pas semblant d'être un grand film, avec des gros moyens, avec des avions, avec, je sais pas, ça fait rêver.
Elle a réussi à ne pas dire Tom Cruise depuis
tout à l'heure. Non, mais ouais, évidemment, puis ce qui est sympa, c'est que Tom Cruise vieillit avec moi et je trouve ça très sympathique de sa part. C'est-à-dire qu'il y a un côté,
ouais. En fait, pile le même âge en plus.
Grâce à Tom Cruise, je me sens un peu moins vieille. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire qu'il reste, il a assumé là pour une fois son âge dans ce film. Et donc, on n'a pas l'impression qu'il faudrait toujours que les héros soient des petits jeunes. Bah non, c'est un héros et il assume pleinement d'être un homme mûr. Je trouve ça pas mal, oui. Franchement.
59 ans,
Tom Cruise. Voilà. Non, donc j'ai encore une petite marge. Hein. Tom Cruise n'a pas tout à fait mon âge. En effet, merci beaucoup.
Je te donne des infos après.
Non, ça m'a même, je vais vous dire, ça m'a même réconcilié avec le cinéma.
Ah.
On en a souvent parlé dans l'année, à chaque fois qu'on parlait des sorties de films, moi je me sentais complètement exclue parce que j'avais pas repris le chemin du cinéma depuis le Covid. Et en fait, depuis, j'y suis retournée 2 fois.
Donc ça vaut le coup d'y aller.
Aller voir Top Gun m'a réconcilié, moi, avec le spectacle, avec le cinéma, avec l'envie d'aller de se faire un resto ciné.
Et allez-y avant que le masque soit obligatoire en salle, parce que ça va pas tarder à tomber.
C'est vrai que ça sera quand même nettement moins sympa. Vous l'avez vu, Manu et Nicolas?
Alors moi, c'est totalement le cinéma que j'adore, mais je l'ai pas vu.
Il est encore temps.
Oui, bien sûr.
Non,
bien sûr.
Bon,
même si des pilotes de chasse de 59 ans, vous en trouvez pas beaucoup sur le
front. Oui.
Non,
mais c'est du cinéma.
Mais bon, non, mais moi j'adore tous ces films à grand spectacle.
Ouais.
Beaucoup plus que le festival local, vous voyez.
Non, puis j'aimerais bien que la France. En fait, je trouve qu'il y avait un côté aussi très déculpabilisé de l'Amérique à se dire on est une grande puissance et on y va pleinement et on fait pas
semblant. Oui, ça, ils savent bien faire, les Américains.
Non, mais ça, ils savent faire. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, quand même.
Non, moi je retiens que vous pouvez trouver un homme de 59 ans très sexy.
Oh, mais oui, Nico.
Je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Évidemment. Donc, ça, c'est une très bonne chose d'aller au cinéma, quand même.
Un bon vélo par rapport à. Un classeur américain, c'est un peu léger, quoi.
Mais si, il fait une matinale, c'est vachement courageux. Si, très courageux d'être Nicolas Poincaré. Allez, on tourne la page parce que là, je sens qu'on dévie. Il est 6h10 sur RMC. Vous avez peut-être repris le chemin du cinéma. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus sur le 32-16.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
La une de l'actu, c'est la reprise de l'épidémie de Covid. La 7e vague est là. Le gouvernement nous demande de remettre le masque dans les transports en commun. Est-ce que vous allez suivre cette recommandation pour éviter que le Covid nous gâche l'été? Reportage à suivre et vos témoignages au 32-16 sur RMC.
RMC jusqu'à 8h30.
Apolline Matin. RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h10 sur RMC. Très bon réveil à tous. Plus de 60 000 cas de Covid en moyenne chaque jour, plus 50% par rapport à la semaine dernière. La reprise épidémique se confirme et la future ex-ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, appelle les Français à remettre le masque dans les transports en commun. Écoutez, c'était hier au micro de nos confrères d'RTL.
Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un variant qui est très transmissible. Et puis, il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Donc, je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen que de se protéger et de protéger les autres.
Alors, évidemment, la parole de Brigitte Bourguignon, elle est entachée du fait qu'elle ne sera plus ministre dans quelques jours. Elle est en fait démissionnaire puisqu'elle a perdu les élections législatives. Enfin, qu'en attendant d'être remplacée, elle est toujours fidèle au poste. Les Français, eux, vont-ils répondre à cet appel citoyen qu'elle lance? Elle exhorte les Français à remettre le masque. Est-ce qu'il faut remettre le masque pour préserver nos vacances cet été? C'est le reportage de la rédaction signé ce matin Marilyn Hotman.
Le retour du masque sur les visages des Français, certains l'approuvent.
Peut-être qu'il ne fallait pas enlever le masque si précipitamment.
Je vais obéir quand même à tout ça, quoi. Et même comme ça, je le mets déjà.
Moi, ça me dérange pas.
Car mieux vaut prévenir que guérir.
S'il faut ça pour éviter de passer un été encore avec des confinements ou d'autres choses, ça vaut le coup, donc oui.
Remettre le masque, il n'y a pas de souci.
Mais si d'autres restrictions tombent pendant l'été,
je ne serai pas très pour.
Il sera plus difficile pour eux de s'y plier.
Je prévois de voyager et j'aimerais bien que les frontières restent ouvertes, que les bars et restos restent ouverts.
Car ces vacances, beaucoup les attendent.
L'été, je vais en profiter. J'espère en profiter. J'espère qu'on n'aura pas à nouveau des restrictions pour aller au restaurant, aller au cinéma.
Ça va gâcher l'été, tout simplement. C'est pas que j'ai peur, mais ça va gâcher l'été. L'annulation des vols.
Franchement, c'est un enfer.
On a assez donné, ouais. Et puis, ouais, on a assez donné. Franchement.
Leur chance, c'est qu'en été, les Français passent plus de temps en plein air et le virus circule moins en extérieur. Pascal Crépé est épidémiologiste.
On peut s'attendre à ce qu'il y ait une vague de moindre importance que les vagues, que la cinquième vague que nous avons connue, par exemple. Il y a peu de chances pour que ce frein estival arrête totalement l'augmentation du nombre de cas. Mais on pourrait en fait avoir un ralentissement de cette augmentation et donc une courbe un peu plus aplatie que ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu ces vacances scolaires et cette période estivale.
Mais il incite à la prudence. L'an dernier, le nombre de cas de Covid avait explosé en août.
Et signe que la situation épidémique est préoccupante, la Première ministre réunit les préfets et les présidents de toutes les agences régionales de santé aujourd'hui à 15h pour voir quelles mesures prendre. L'état d'urgence sanitaire devrait être pour autant levé le 31 juillet. En tout cas, c'est ce qui était prévu. On verra évidemment si ça se fait. Mathieu nous a appelé au 32-16. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour.
Mathieu qui est pompier professionnel à Poitiers dans la Vienne. Mathieu, est-ce que vous remettrez le masque dans les transports?
Alors non.
Non.
Alors, je prends pas beaucoup de transport, mais bon voilà, ça m'arrive d'aller sur Paris régulièrement.
De prendre le train.
Et récemment, voilà, c'est vrai qu'il y avait des annonces de la RATP qui conseillaient déjà de mettre le masque depuis tout le temps en fait, et personne ne le met. Voilà, après celui qui veut le mettre, il y a pas de souci, mais voilà, faut vraiment arrêter parce que là, je pense qu'il y a une bascule. Là, ça fait 2 ans, il y a une bascule de société où il faut choisir. Voilà, soit on est dans une société sanitaire et hygiéniste où on n'accepte plus aucune maladie, soit on accepte un certain risque et on accepte de vivre avec et avec la notion de liberté qui à mon avis, est fondamentale aussi. Quoi.
C'est un choix de liberté et de philosophie, mais c'est aussi, en effet, désormais un choix individuel, c'est-à-dire que on le sent bien. Alors c'est aussi dû à la fragilité de la situation politique. Ils vont pas tout d'un coup prendre alors qu'ils sont dans un moment où ils ont énormément de mal à trouver un consensus, la décision de réimposer quelques passes sanitaires ou masques que ce soit. C'est donc désormais une décision individuelle. Est-ce que vous vous dites, vous, Mathieu, vous qui croisez quand même beaucoup justement de gens qui sont parfois dans des situations difficiles puisque vous êtes pompier, est-ce que vous vous dites les Français finalement sont aujourd'hui suffisamment mûrs pour se dire bah c'est à chacun de voir et on respecte le choix du voisin et quand on sent qu'on doit se protéger, on se protège.
Exactement. Mmh. Et puis voilà, et c'est ce qu'on supporte plus non plus, c'est la notion de culpabilisation. Et la ministre de la Santé, là, je l'ai entendu sur la chaîne concurrente, elle culpabilise les gens. Elle parle de devoir citoyen de mettre son masque. Et ça, c'est non. Voilà, c'est comme quand on roule en gasoil, et ben on nous culpabilise de rouler en gasoil, alors que c'est pas nous qui avons créé le gasoil. Mmh. Voilà, et toute la société comme ça, on culpabilise, et ben non, et voilà, non, moi si je mets pas le masque, j'en ai marre de culpabiliser, voilà. Et il y a une chose, voilà, tout à l'heure dans votre antenne, il y avait un anesthésiste, alors lui, il voit la focale, c'est normal. C'est normal, mais il voit les gens arriver chez lui, mais après, si on prend le psychiatre d'enfant, il va vous dire surtout, faut pas mettre le masque. Parce que moi, j'ai le cas de la famille proche,
d'un enfant qui en a souffert.
Voilà. Et hospitalisation psychiatrique, ça fait 2 ans qu'il est déscolarisé. Et lui, c'est le cocktail est reconnu par les psychiatres, le mélange du Covid et de problèmes d'environnement. On a des enfants avec l'environnement qui aussi ont peur de tout faire. Ils sont stérilisés. Enfin voilà. Donc il y a vraiment
une angoisse
dans la société. Et en plus, il y a plein de médecins qui disent que plus on est angoissé, plus on attrape de virus et plus on est en mauvaise santé.
Oui, donc, c'est sûr que ça vous rend plus fragile. Ça vous rend plus fragile. Mais cela dit, Mathieu, globalement, est-ce que vous vous dites quand même, on a passé un cap, c'est-à-dire que maintenant, quand on est malade, quand on se sent plus fragile, on met un masque, ce qui était jamais le cas. Enfin, je veux dire, il y a encore 2-3 ans, quand on regardait les images des Asiatiques, on se disait, mais ils sont complètement fous au Japon de mettre des masques toute la journée. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On respectera tous ceux qui souhaiteront le mettre.
Ben, j'ai peur que non. Voilà, moi je m'inquiète pour mes enfants aussi. Mmh. C'est vrai que ça a été un calvaire pour les enfants de mettre leur masque 10 heures par jour.
Non, après ce qu'on peut redouter.
10 heures par jour.
Ouais, ce qu'on peut redouter, c'est si ça doit revenir de manière obligatoire. Enfin, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin.
Oh, je pense pas, parce que si le gouvernement avait une majorité, la loi était prévue et la prolongation de la loi sanitaire qui s'arrête au 31 janvier, normalement, ça aurait dû être voté depuis plusieurs jours. Mmh. Et là, juste comme ils n'avaient pas la majorité, ils l'ont pas fait. Mais dès qu'ils retrouveront une majorité, ils le feront. Il y a quand même la loi, enfin le Parlement ou je sais plus la Commission européenne qui a voté la prolongation du pass sanitaire pendant un an. Là.
Alors du pass sanitaire aux frontières, c'est-à-dire que potentiellement pouvoir réactiver l'option pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être précis, on ne va pas réimposer le pass sanitaire aux frontières, c'est juste que la loi permet que si d'aventure c'était nécessaire, il puisse être réactivé effectivement, notamment entre les pays. Mathieu, dites-nous quand même un mot sur vous, le fait que vous êtes pompier au quotidien, vous êtes confronté à quoi, quel est le regard que vous portez?
Eh ben le regard qu'on voilà, c'est que oui, nous on a fait quelques pics, surtout la première et la deuxième, mais après la première,
il y a pas
deuxième,
de
c'était anecdotique, c'était complètement anecdotique. Et puis vous voyez, nous le masque en caserne, on l'a quasiment jamais porté pendant 2 ans. Voilà, ça dépendait des casernes et des casernes.
Les pompiers qui montrent pas l'exemple.
Ben si, et puis voilà, sur intervention, en revanche, on est nickel,
voilà.
Sur intervention,
non, mais voilà.
On porte le masque et on se lave les mains, et comme on a toujours fait, sur intervention, on a toujours nettoyé les cabines, on a toujours désinfecté, quand il y a quelqu'un qui est porteur d'un virus, et ben on passe un quart d'heure à nettoyer l'ambulance, mais à la caserne, entre nous, ben, celui qui voulait pas porter de masque, il portait pas de masque.
En tout cas, finalement, on va peut-être en arriver ça de manière plus globale. Mais merci Mathieu, en tout cas, merci pour votre témoignage ce matin, Mathieu, pompier à Poitiers, donc, et cette question qu'on vous pose ce matin, venez donc en débattre avec nous. Allez-vous remettre le masque comme la ministre de la Santé vous invite, vous exhorte
incite fortement.
Vous incite fortement à le faire. Il est 6h19.
RMC, 6h-8h30.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, l'économie avec Emmanuel Le Chypre et des bonnes nouvelles. Mais oui, c'est possible en ce moment sur le front économique, c'est sur le front de l'emploi d'ailleurs. Vous allez tout savoir avec Emmanuel. Et puis, dans mes histoires, changement d'ambiance puisqu'on va regarder les résultats du championnat du monde d'imitation du cri du phoque. Attention, accrochez-vous, c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Mais on va tout de suite faire un tour sur l'appli RMC avec Direct Studio. Et vous, allez-vous remettre le masque dans les transports, comme vous le demande la ministre de la Santé? Sylvie nous écrit, personnellement, je n'ai jamais enlevé le masque jusqu'à présent. Quand je vais faire mes courses, par exemple, le gel hydroalcoolique n'a jamais quitté mon sac. Je pense que dans les endroits avec du monde, il faut continuer à le mettre. Si tout le monde joue le jeu, on a une chance de passer l'été et la rentrée un peu plus tranquille, nous écrit Sylvie. Aurélien nous dit, moi je prends le RER tous les jours, pas question de remettre le masque tant que ce n'est pas parfaitement obligatoire. Il faut nous laisser le libre choix. Et puis Steve nous écrit, le gouvernement recommande le masque. Et ce sont ensuite les mêmes Français qui vont râler. C'est dommage parce que malheureusement, à force de ne pas jouer le jeu, ça va finir par devenir obligatoire. On est obligé de tout répéter aux Français pour qu'ils comprennent. J'ai l'exemple typique avec mon beau-frère, nous écrit Steve, qui témoigne. Et vous, allez-vous remettre le masque dans les transports? Vous venez prendre la parole, participer au débat. Il suffit de composer le 32-16 pour témoigner en direct sur RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h23 sur RMC, c'est l'heure d'économie.
Le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, moins 25 300.
Eh oui, exactement, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a repris sa baisse en mai avec donc 25 300 inscrits. En moins dans la célèbre catégorie A, les gens qui n'ont pas du tout travaillé, c'est moins 0,8 et la baisse est aussi substantielle si on inclut les catégories B et C, c'est-à-dire les gens qui n'ont travaillé que quelques heures ou quelques dizaines d'heures. Et ça n'est pas la seule bonne nouvelle concernant le marché du travail. L'INSEE, d'abord, qui vient de publier ses prévisions, nous dit il y aura 200 000 créations nettes d'emplois cette année. C'est exactement le rythme d'avant la crise sanitaire et le taux de chômage continuera à baisser jusqu'à 7%, encore mieux, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni, par exemple, comptent moins d'actifs qu'avant la crise. Eh bien, la France est l'un des très rares pays qui a vu sa population active progresser le plus depuis 2 ans, et au point qu'il y a davantage de gens qui travaillent aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire.
Pourquoi on fait mieux que les autres?
Alors d'abord, on a particulièrement des difficultés de recrutement, et donc on recrute particulièrement dans des secteurs qui sont très pourvoyeurs de main-d'œuvre, hein, l'hôtellerie, restauration, etc. Donc ça fait des gros bataillons de nouveaux emplois. Et puis, il y a par exemple aussi le fait que il fallait évidemment être déclaré pour percevoir les aides comme le chômage partiel ou le fonds de solidarité pendant la crise sanitaire. Ça veut dire que beaucoup de gens qui travaillaient au black, il faut le dire franchement, et qui n'apparaissaient pas dans les radars, eh bien, sont réapparus finalement à la lumière des chiffres officiels pour pouvoir bénéficier de ces aides. Il y a une autre explication typiquement française, c'est la très forte hausse du nombre de contrats d'apprentissage. Il y a 2 fois plus d'apprentis qu'il y a 10 ans. Or, il faut rappeler que si un étudiant ne fait pas partie des actifs, un apprenti, lui, fait partie et considéré comme quelqu'un qui travaille. Et puis, il y a aussi le fait que la France est encore épargnée par ce qu'on appelle la grande démission. C'est un phénomène qui touche les pays anglo-saxons, les gens qui ne veulent pas revenir au travail. Alors, ça arrivera peut-être.
Ça pourrait arriver chez nous.
Oui, il y a une enquête de Indeed, justement, qui a été faite. 40% des salariés français pensent que le mouvement va arriver prochainement en France. Ça n'est pas encore le cas. Tout ça fait que, finalement, notre marché du travail se porte encore bien et que les patrons disent encore aujourd'hui, malgré la situation actuelle, qu'ils vont recruter. Et ils ne revoient pas encore en baisse leur projet.
Qui vont recruter, et puis après, il faut voir quel salaire ils mettent en face et si ça permet de recruter vraiment.
Ils seront bien obligés.
Il y a un grand nombre de postes qui sont à pourvoir et qui ne trouvent pas preneur.
Et il y a un moment, c'est la loi du marché du travail. Quand vous ne trouvez pas, vous augmentez les salaires et là, vous trouverez des gens.
Et c'est une des questions que je poserai tout à l'heure à mon invité à 8h30. C'est Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Justement, est-ce que les patrons doivent faire plus pour les salaires, pour le recrutement dans ce contexte?
Tous les patrons ne peuvent pas faire plus, mais beaucoup de patrons peuvent faire plus.
J'ai l'impression que non, c'est comme c'est... on peut tromper une fois 1000 personnes, mais
on peut augmenter une fois 1000 salariés.
En fait, il y a énormément d'entreprises dans lesquelles c'est possible, et là, il faut le faire, mais il ne faut pas demander à toutes les entreprises de le faire obligatoirement.
Vous me refaites la formule, il ne faut pas que je me trompe? tous les patrons ne peuvent pas, mais un certain nombre de patrons
beaucoup
peuvent.
De patrons.
Mais non, beaucoup de patrons
voilà,
peuvent.
Voilà, mais pas sous la contrainte.
Mais vous ne pouvez pas en rajouter à chaque fois. Il faut que j'ai une petite formule facile, simple, mémorisable, facile, que je puisse sortir tout à l'heure à Geoffroy Roux de Bézieux.
Bah, gardez, beaucoup de patrons peuvent. Tous peuvent pas, mais beaucoup.
6h26, les histoires de chat.
Les histoires de Charles.
Charles, avec un prestigieux championnat du monde que vous nous avez dégoté, celui de l'imitation du cri du phoque.
Oui, c'était ce week-end à Frétin, dans le Pas-de-Calais. Nos confrères de BFM Lille étaient évidemment sur place pour couvrir l'événement. 5 candidats en lice, alors je sens votre impatience. Ah bah oui. Allons-y, découvrons leur prestation dans la peau d'un phoque. On est parfois sur du phoque en petite forme, mais il se donne devant un public de passionnés, un jury très attentif qui avait des critères bien précis pour juger.
Certains avaient la bonne attitude, certains avaient le cri peut-être un peu plus puissant, certains avaient travaillé un peu la chorégraphie, donc on a fait un équilibre de tout ça.
Moi, franchement, je recommande d'allumer sa télévision, Canal 23, RMC Story, parce qu'il y a une attitude qui va avec le cri.
Évidemment.
C'est important.
Et surtout, allumer tout de suite, parce qu'on va découvrir le grand gagnant, le champion du monde, il s'appelle Pascal. Ça rappelle des week-ends, hein, Manu, hein. Bref, Pascal, qui sur scène se fait appeler Phoque Al. Oui, il aime les jeux de mots aussi. Il était très fier, hein, de sa victoire.
Bah, c'est très très surprenant, je sais pas comment dire ça. Je suis sans voix de phoque.
Voilà, l'humour de Pascal qui est reparti avec un phoque. Oui, mais un phoque en bois, je vous rassure, pour fêter son titre de champion du monde.
Oh, il aurait pu avoir un phoque en or quand même, je trouve, là.
Ah oui, peut-être l'année prochaine.
Au niveau de championnat.
On pourrait l'inviter avec le champion du monde des cris d'oiseaux.
Exactement. Oui. Moi, je trouve qu'on pourrait faire une spéciale.
Ah, une spéciale.
Je suis tout à fait d'accord.
Une spéciale cris d'animaux.
Une édition spéciale cris d'animaux. Et je crois vraiment qu'il pourrait se passer des choses sur ce plateau.
Je vous concocte ça avant la fin de la saison. Oui. C'est noté.
Un petit clin d'œil, parce que les images que vous venez d'entendre et les cris de phoque que vous venez d'entendre, on les doit à BFM Lille, qui a filmé l'événement. Et aujourd'hui, eh bien, il y a BFM Alsace qui va naître. C'est la naissance d'une petite cousine, BFM Alsace. Et donc, on lui souhaite belle et longue vie. Et
bientôt, peut-être qu'il pourrait avoir des. Le cri de la cigogne.
C'est ce que j'allais dire. Oui. Bientôt, en exclusivité, le concours du cri de la cigogne. Il est 6h28, à tout de suite pour la météo du journal.
RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.
6h30 tout pile sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. Tout de suite, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Déjà un rebondissement sur le Tour de France. Julien Alaphilippe, forfait, il ne sera pas au départ vendredi au Danemark. Revoilà le Covid, le gouvernement demande aux Français de remettre le masque dans les transports. Et puis la colère pour les salaires, de nombreuses grèves comme celle qui commence aujourd'hui, grève illimitée au CHU de Bordeaux.
On ne verra donc pas le chouchou des Français cette année sur le Tour de France.
Oui, on a appris hier ce qu'on redoutait, Julien Alaphilippe, qui ne sera pas au départ du Tour vendredi au Danemark. Il dit ce matin dans la presse qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour revenir à son meilleur niveau après sa lourde chute au printemps, mais ça n'a pas suffi. Son équipe, la Quick-Step Alpha Vinyl, a décidé de ne pas le sélectionner. On parle quand même d'un double champion du monde, alors forcément, Sarah Griffon pour RMC Sport, il y a des déçus.
L'isme tricolore a commencé par le patron du Tour de France, Christian Prudhomme.
Bien évidemment, je préférerais qu'il soit là. Ce qui me gêne un peu, c'est que ça semble être aussi un peu contre sa volonté. Et que Julien avait très envie d'être là, sans aucun doute, qu'il n'a pas fait un si mauvais championnat de France que ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pas à 100%, certes, Julien Alaphilippe avait tout de même les capacités pour faire de belles choses lors de ces 3 semaines. Thomas Vauclair, sélectionneur de l'équipe de France.
Avec la fraîcheur et l'envie qui était la sienne, je suis convaincu qu'il aurait pu faire des beaux numéros et nous faire vibrer. Je suis extrêmement déçu parce que je suis convaincu qu'il était en mesure de faire le tour.
Autre absent de la liste de Quick-Step Alpha Vinyl, le Tour est sans champion de France, Florian Sénéchal. Une non-sélection qui s'explique pour une raison économique.
Je voulais mettre des Danois parce que c'était le grand départ demain. Ça donnait une bonne image. Enfin, il faut comprendre, au niveau marketing, c'est important aussi. Hein. C'est une grande publicité, le Tour de France.
Pas de champion britannique non plus. Mark Cavendish suivra cette année, comme Sénéchal et Alaphilippe, les prouesses de leur coéquipier à la télévision.
Le Tour de France qui va commencer avec la menace du Covid. Comme ces dernières années, l'épidémie repart de plus belle avec une 7e vague qu'on observe depuis 3 semaines. 71 000 cas en moyenne sur les 7 derniers jours. Réunion aujourd'hui autour de la Première Ministre Elisabeth Borne par visioconférence pour de possibles mesures d'urgence. Et la Ministre de la Santé, déjà Brigitte Bourguignon, demande aux Français de remettre le masque dans les transports. Thomas Delaminck, qui a suivi l'épidémie pour le site internet Covid Tracker, nous confirme que ça repart.
On a une épidémie qui repart plus fortement en Île-de-France et sur les départements de la côte ouest. Mais de manière globale, l'ensemble de la France métropolitaine est touchée par cette septième vague. En termes d'augmentation du nombre de cas, ça ressemble à la dernière vague qu'on avait eue, qui était la première vague Omicron. Après, il faudra voir dans les prochaines semaines l'évolution. Aujourd'hui, on est sur une forte évolution du nombre de cas. Un début d'augmentation du nombre de personnes hospitalisées avec Covid. C'est surtout ces chiffres hospitaliers qu'il faudra observer dans les prochains jours et prochaines semaines pour comparer les différentes vagues.
Il est 6h33 sur RMC et on a des précisions. Ce matin, ce sont 9 millions de foyers qui toucheront à la rentrée de septembre le nouveau chèque alimentaire du gouvernement, selon le journal Les Échos. 100 euros plus 50 euros par enfant, c'est moins que le chèque versé en 2020 à la sortie du premier confinement pour les Français bénéficiaires des minima sociaux. Et dans le contexte de l'inflation interminable, début d'une grève illimitée, je vous le disais ce matin au CHU de Bordeaux, un des plus gros de France, encore une grève. En fait, ce sont tous les secteurs qui sont concernés depuis des semaines, voire des mois. Des exemples, je vous propose d'écouter avec Lucille Pascanet pour RMC.
Elles étaient des centaines dans la rue il y a un mois. Pour la première fois depuis 2011, les employés de Marionneau faisaient grève.
On ne vit pas décemment de nos salaires.
Marilyn Gentil est déléguée syndicale CGT.
C'est beaucoup de femmes, de mamans isolées. Comment vous faites en Île-de-France, si vous êtes au SMIC, que vous avez déjà un loyer à 800 et quelques euros, votre EDF à payer, l'assurance, on ne parle même pas de l'essence. C'est hyper compliqué quand même.
La direction propose 10 euros d'augmentation, bien loin de la centaine demandée par l'intersyndicale.
C'est ridicule, puisque suite à la revalorisation du SMIC qui aura certainement lieu en septembre-octobre, ça sera cette augmentation.
Même son de cloche chez 7LM. Le 16 juin, certains services des centres de relations clients de la banque comptaient 100% de grévistes, selon Françoise Lelief, membre de l'intersyndicale.
On n'a pas coutume d'organiser des mouvements de grève, particulièrement chez 7LM. Il y avait un ras-le-bol généralisé qui s'exprime encore.
Voilà des mois que les syndicats réclament 125 euros en plus pour tous les salariés, en vain. Alors qu'en 2022, le chiffre d'affaires de la maison mère de 7LM a bondi de 11%.
On sait qu'il y a des moyens, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas avoir un signe fort de la direction de l'entreprise.
Les négociations sont en cours. La prochaine réunion est prévue à la rentrée.
Et notez que mon invité à 8h30, ce sera Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF.
Les jurés délibèrent au procès des attentats du 13 novembre à Paris. C'est demain qu'ils rendront leur verdict dans ce procès hors norme qui a commencé en septembre dernier. Le parquet a requis des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Incompressible, extrêmement rare pour Salah Abdeslam qui s'est excusé une dernière fois. Hier, il était le dernier à prendre la parole. Et vous y étiez, Maxime Lévy du service police-justice à RMC.
C'est demain, lors du verdict, que nous saurons si Salah Abdeslam sera ou non condamné à la perpétuité incompressible. En clair, s'il pourra sortir ou non de prison un jour. Des enjeux énormes pour les accusés, rappelle Georges Saline, père de Lola, tué au Bataclan.
Et il y a des acquittements qui sont demandés, il y a des requalifications de charges. Donc j'attends avec curiosité ce que la Cour a décidé. C'est pas à moi de juger, c'est pas aux victimes de juger, c'est à la Cour de juger. Et croyez-moi, je m'en félicite, je n'aimerais pas être à leur place.
Le verdict comme un point final à 10 mois de procès, 6 années d'enquête, un long cheminement pour Dominique Kielmoès, mère de Victor décédé sur les terrasses parisiennes.
Ce fut une épreuve physique et une épreuve morale. Puis on sait qu'il y aura vraisemblablement un procès en appel, donc on va se retrouver d'ici quelques mois, voire quelques années. C'est important que le procès se termine et que le verdict soit équitable.
En attendant la dernière minute de ce procès, les magistrats délibèrent confinés dans un lieu tenu secret. Ils n'en sortiront que pour annoncer le verdict demain soir.
C'est l'indignation au G7 en Allemagne, les 7 grandes puissances dont fait partie la France qui dénonce un crime de guerre après la frappe russe sur un centre commercial qui a fait au moins 18 morts, bilan revu à la hausse ce matin à Kremenchuk, une ville dans le centre de l'Ukraine. Réunion européenne aujourd'hui sur le sort des voitures thermiques au Luxembourg. L'Union européenne veut les interdire pour 2035. On en a beaucoup parlé sur RMC, mais 5 pays dont l'Italie demandent déjà un report pour 2040. Et puis 5 sur 8 pour les Français au tournoi de tennis de Wimbledon, 3e tournoi du Grand Chelem de l'année, 5 qualifications parmi les 8 qui étaient engagées hier au premier tour. C'est fini pour Benoît Paire et Kristina Mladenovic.
Le quintet, Quentin, c'est à Auteuil.
Ce sera en début d'après-midi à 13h50 sur RMC Découverte. Voici les pronostics ce matin de la Dream Team des courses RMC. Le 10 et le 11. Le 10 en favori Paris Mix et le 11 en outsider Dominator.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 6h36. On part au 32-16. Retrouvez Elias. Bonjour Elias.
Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à Pauline.
Elias qui vient de Cadillac en Gironde. Mais vous n'êtes pas au volant d'une Cadillac là, Elias, hein?
Ah, pas du tout, je suis rentré, c'est bon, je suis à la maison tranquille. J'ai pas les moyens pour.
C'est bon, vous habitez à Cadillac, vous pouvez dire, vous pouvez jouer un peu sur les mots, quoi. Sur un malentendu, ça passe à mon avis, Elias, hein. Honnêtement.
Non, ce qui passe, c'est qu'il y a un hôpital psychiatrique juste à côté. On est plus connu pour ça dans la région.
Bon. C'est ça, moins pour les voitures que pour l'hôpital. Elias, ouais, dites-moi, quand vous dites je viens de rentrer, ça veut dire que vous étiez, vous rouliez la nuit?
C'est ça.
Ok. J'imagine que vous prenez peu les transports en commun, du coup.
Mais ça m'arrive quand même.
Voilà. Est-ce que vous remettrez le masque?
Franchement, plus jamais je remettrai le masque.
Plus jamais?
Ouais, plus jamais, parce que moi je suis quelqu'un qui est attaché aux libertés individuelles. Mmh. Et je trouve que l'État s'immisce un peu trop sur nos libertés, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Au début, c'est des recommandations, et après ça va vite finir en obligation. Alors que moi je suis pour les personnes vulnérables qu'elles portent le masque FFP2, parce que je vois souvent.
Pour l'instant, Elias, c'est le cas. Hein. Pour l'instant, ils disent pas. Attention, hein, faut quand même être précis. C'est vrai que la ministre de la Santé hier a dit qu'elle demandait aux Français, par esprit de responsabilité, de remettre le masque dans les transports. Mais il n'est pas question pour l'instant d'obligation. Et honnêtement, étant donné la situation aujourd'hui politique, je vois pas très bien comment ils pourraient remettre une obligation. Hein.
J'entends bien, mais après 2 ans de pandémie. Le cheminement, on voit comment commencer. Au début, c'est des recommandations. Mmh. Après, c'est des obligations. Mmh. Donc,
vous le redoutez, quoi.
Parce que si on donne le poignet, on aura tout le bras. Donc, moi, je n'ai pas envie de donner tout mon bras. Donc,
vous le mettiez à l'époque, quand même, Charles, allez-y.
Non, mais donc, Elias, en fait, vous attendez l'obligation, quoi. Pour le mettre.
Écoute, si on n'a pas le choix, on le mettra. Mais je suis franchement opposé.
Mais tant qu'on a le choix, on le met pas. En fait.
Ouais, ouais.
Totalement. Moi, je le mettrai pas. Après, comme j'ai dit, si les gens, personnes vulnérables et tout, ils veulent porter, il faudrait plus axer la communication sur le port du masque FFP2. Parce que je vois des gens, ils portent des masques chirurgicaux dans les magasins, et qui ont un masque chirurgical. Je me dis, mais ça sert à rien du tout, leur truc. C'est gentil pour moi, ils me protègent, mais eux, ils ne se protègent pas.
S'ils sont vraiment vulnérables, en effet, le masque FFP2 reste quand même le plus solide.
Et on va rappeler qu'on ne porte pas le masque uniquement pour soi, pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. C'est un geste altruiste et on peut être porteur asymptomatique. Donc, ce n'est pas uniquement quand on est fragile que ça a du sens de porter le masque.
Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que Brigitte Bourguignon le demande. Après, il y a aussi un rapport à la politique, c'est-à-dire qu'on l'entend bien dans votre propos, Elias, c'est le côté aussi, on en a marre, ils nous ont privés de liberté, etc. Et Brigitte Bourguignon a-t-elle une crédibilité suffisante pour faire cet appel alors qu'elle est en réalité en partance puisqu'elle n'a pas été élue aux dernières élections législatives? On en débat tous ensemble ce matin. Faut-il reporter le masque? Est-ce que vous l'avez enlevé? Et on le voit depuis ce matin d'ailleurs au 32-16, vous êtes très partagé. Hein. Une partie comme Elias dit « je ne veux pas le porter », Elias qui dit carrément « je ne le porterai plus jamais » et d'autres au contraire qui nous disent qu'ils ne l'ont finalement jamais enlevé et qui font partie de ceux qui continuaient à le porter dans les transports. Le 32-16 vous est ouvert, il est 6h40.
RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.
Et deux rendez-vous à suivre dans la matinale sur RMC. À 7h10, un témoignage RMC après le décès d'un enfant dans une crèche People and Baby de Lyon. Une maman prend la parole sur RMC. Elle avait porté plainte pour des mauvais traitements, cette fois dans un établissement dans la région de Lille. Elle sera en direct avec nous 7h10. Et puis à 7h40, l'avocate Samia Maktouf viendra nous dire ce qu'elle attend du verdict des attentats du 13 novembre. Le procès, le verdict est attendu demain. Elle représente une quarantaine de victimes. Mais avant cela, le parti pris du jour, Charles.
Avec la nouvelle députée de Haute-Garonne, Christine Arrigui, avec deux autres élus NUPES du département, ils ont décidé de ne pas aller à l'Assemblée en avion. Ils préfèrent le train et tant pis si ça prend beaucoup plus de temps. Son parti pris dans une minute sur RMC.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et on va regarder vos messages sur l'appli RMC, sur Direct Studio. Ça vous fait réagir, hein, nombreux ce matin, cette question du masque dans les transports. La ministre de la Santé qui demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Ça fait réagir Jean-Baptiste qui nous dit « Moi, je remettrai le masque quand nos élites le remettront. L'exemplarité est la règle. Il faut que les gouvernants se montrent tout le temps masqués pour que les Français suivent. Mais tant qu'ils ne le font pas, je ne le mets pas », nous écrit Jean-Baptiste. Sébastien nous dit « Oui, le Covid est le retour, il faut le dire. Moi, par exemple, je tenais un bureau de vote pour le second tour des législatives et la moitié du bureau a été covidé, comme on dit, parce que le masque était facultatif. Et résultat, la moitié du bureau, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas porté le masque toute la journée, ont fini positif au Covid. Et puis j'ai aussi le message de Catherine, j'imagine, qui nous dit « Le port du masque, pour moi, ce sera dans une semaine avec mon tuba, mais certainement pas tous les jours dans les transports. » Nous écrit Catherine. Et vous, allez-vous jouer le jeu? Allez-vous remettre le masque dans les transports? Vous venez témoigner ce matin au 32-16 sur RMC.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h43 sur RMC, 6h44 tout pile. Bonjour Christine Arrigui.
Bonjour.
Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de la Haute-Garonne et avec vous le parti pris ce matin. Vous faites partie de ces nouveaux visages qu'on va découvrir, mais on découvre aussi de nouvelles habitudes et de nouvelles façons de faire. Vous êtes élue de Toulouse, l'Assemblée nationale c'est à Paris, et ce qu'on vous avait proposé, comme à tous les députés visiblement, c'était de prendre l'avion régulièrement, du coup, pour venir passer vos mardis et vos mercredis à Paris pour siéger à l'Assemblée. Mais vous, vous avez décidé, avec les autres élus NUPES de la Haute-Garonne, de ne pas prendre l'avion. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Alors, l'Assemblée nationale propose ou l'avion ou le train. Donc, les deux options sont tout à fait possibles. Et donc, chacun des députés peut effectivement choisir l'un ou l'autre. Et en ce qui nous concerne et en ce qui me concerne, j'ai naturellement choisi le train, bien sûr, puisque c'est un moyen de transport qui est...
Quitte à ce que ce soit un peu long, parce que depuis Toulouse, vous avez le train de nuit, vous avez... là, vous êtes venu comment ?
Alors, hier après-midi, je suis venu en TGV, donc c'est 4h20.
Ouais.
Si vous prenez l'avion, au-delà de la question d'ordre écologique, uniquement la question du temps, vous devez vous rejoindre un aéroport. Une fois que vous avez rejoint l'aéroport, vous avez l'attente pour embarquer. Vous devez bien le savoir si vous l'avez pris. Et puis, quand vous arrivez à Orly, vous avez également rejoindre l'Assemblée nationale et en réalité le temps
porte-à-porte. Vous dites que vous ne perdez pas tant de
temps. On ne perd pas tant de temps que cela et avec l'avion, les ruptures de charge qui fait que pendant ce temps, on ne peut pas travailler. Tandis que dans un train, on s'assied, on déplie sa tablette et on travaille. Donc c'est une question d'organisation.
En fait, vous réhabilitez le train. Vous voulez nous faire aimer le train à nouveau.
C'est-à-dire que le train est un moyen de transport de notre temps. C'est-à-dire que dans le cadre du réchauffement climatique et de l'utilisation de ce moyen de transport extrêmement sobre, on voit qu'effectivement, on devrait et on doit absolument, non pas réhabiliter le train, mais prendre le train dans un cadre de pouvoir d'achat, l'essence, l'autoroute et les péages, ou de l'avion, dont avec vous me dites qu'il est beaucoup moins cher. Mmh. Mais quand vous faites des liaisons Paris-Toulouse, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. Et puis, pour une question évidemment, qui est la question majeure pour laquelle je privilégie le train, qui est celle de la question climatique.
Je précise que vous êtes élu député NUPES d'Europe Écologie Les Verts, la formation d'origine. Votre groupe, c'est Europe Écologie Les Verts. Vous repartirez en train de nuit ?
Alors là, je vais jeudi soir, partir en train de nuit. Voilà. Donc, a priori, je pense que c'est ce que je vais privilégier, monter le lundi avec le train TGV et redescendre en train de nuit. Alors, le train de nuit, alors c'est encore un autre moyen. Moi, je ne mets pas les modalités de train en concurrence, chacun se complète. Et d'ailleurs, je voudrais aussi, on peut parler aussi du fret et également des camions sur les trains.
Sur le
la Suisse en est un exemple extraordinaire. C'est le paradis du train. Et donc, effectivement, le train de nuit, c'est une autre façon. On se couche, on s'endort, on ne travaille pas. Mais par contre, c'est le voyage, comme je dis, c'est un voyage immobile ou un voyage endormi. Et on arrive le matin avec, effectivement, l'idée que ça serait bien qu'on réhabilite également les trains de nuit, non pas sur leur modalité, mais sur leur confort.
Oui, parce que quand on a relancé les trains de nuit, et notamment un Paris-Lourdes, par exemple, à grand bruit, Jean Castex était lui-même du voyage, un des premiers voyages de
train. Et j'étais aussi à l'accueil.
Mais on s'est vite rendu compte que c'était pas si fiable. C'est-à-dire qu'à l'usage, les usagers le disent, il y a eu quand même beaucoup de ratés sur ce train de nuit. C'était surtout de l'affichage. Est-ce que vous avez décidé d'être un peu la députée qui veut réhabiliter aussi et faire prendre conscience que les trains de nuit, c'est un des moyens qu'il faut remettre en place en France ?
Bien sûr. Alors, le Paris-Lourdes, nous y étions à l'inauguration. C'était un très beau train flambant neuf. Et puis, comme nous sommes quand même un petit peu toujours prudents sur ces effets d'annonce, nous y sommes revenus une semaine après. Et une semaine après, c'était un vieux train avec des vieux wagons, avec des horaires qui n'ont pas été respectés, avec des ruptures qui ont fait que les gens se sont retrouvés en rade dans certaines des gares avant Lourdes et amenés en bus. Et donc, si on veut effectivement voir vraiment une politique réaliste et incitative en matière de de train, encore faut-il que le service soit à la hauteur.
Le service soit à la hauteur et les prix. Et les prix, on en a parlé la semaine dernière pour tous les Français qui, cet été, de bonne volonté ou parce que le portefeuille est là et que l'essence, le prix de l'essence, etc., se disent je vais prendre le train. Comment faire concrètement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a très peu de trains, ils sont quasiment tous complets pour l'été et ils sont extrêmement chers. Est-ce que vous vous battrez sur ce point ?
Alors, je me battrai sur ce point, sur également l'investissement que l'on va mettre dans le réseau ferré, puisque un contrat de performance a été signé en avril, précédent, 2,8 milliards en France par an, pour 28 000 kilomètres de voies ferrées. En Autriche, 3 milliards pour 6 100 kilomètres. En Allemagne, un plan pluriannuel de 10 ans, 86 milliards. Et bon, la Suisse, je ne vous en parle pas parce que là, c'est le paradis du train.
Le paradis,
on voit bien que nous sommes largement sous-dotés en France pour un réseau vieillissant, à la fois sur l'entretien des voies, mais également sur le matériel.
Et vous étiez masqué dans le TGV hier ?
Alors, j'étais masqué dans le TGV parce que vous l'avez peut-être entendu, je suis un peu enrhumée et moi, je considère que le masque, on doit le porter aussi pour protéger les autres.
Donc, avec responsabilité, comme le demande effectivement Brigitte Bourguignon. Les autres députés, vous allez leur dire qu'il faut prendre le train aussi ?
Ah, mais les autres députés d'Haute-Garonne prennent
en
le train également.
En tout cas, de Haute-Garonne, vous montrerez l'exemple. Voilà. Merci Christine Arrigui. On découvre avec vous, et au fur et à mesure des jours, les nouveaux visages qui font l'Assemblée nationale, cette nouvelle Assemblée nationale. Christine Arrigui, députée NUPES Europe Écologie des Verts de Haute-Garonne, donc, qui nous fait aimer le train. Il est 6h50 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Marie Dupin nous rejoint pour RMC, s'engage pour vous avec de nouvelles révélations.
La justice reconnaît les négligences de l'État dans le scandale du chlordécone aux Antilles.
Mais d'abord, le portrait du jour, Nicolas Poincaré, ce sera le président du... Oui, le portrait du président du Tadjikistan qui reçoit la visite de Vladimir Poutine aujourd'hui. Son portrait dans un instant.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et on va regarder vos messages sur l'appli RMC. Allez-vous remettre le masque dans les transports ? Sandrine nous écrit « Personnellement, depuis le début de la crise sanitaire, j'ai toujours porté le masque, que ce soit en magasin, au travail ou dans les transports. Et je n'ai pas attrapé le Covid. Malheureusement, la semaine dernière, je me suis relâché un soir avec des amis. Résultat, cluster, beaucoup de cas déclarés. J'ai fini par être positif. Je suis actuellement en isolement. Mais dès ma sortie, je reprendrai mes habitudes de prudence et donc le port du masque », nous écrit Sandrine. J'ai aussi Raoul qui nous dit « Moi, je viens de passer 4 jours en Espagne. Où la population porte le masque partout, dans les boutiques, etc. D'ailleurs, le propriétaire de la maison que je louais m'a remis les clés avec le masque, par respect envers nous. On voit bien qu'on n'est plus en France. Beaucoup de comportements respectueux. Tout le monde porte le masque pour faire attention dans chaque situation. Et je n'ai pas entendu une seule fois la fameuse phrase égoïste « C'est ma liberté » qu'on entend tout le temps en France. Voilà pour le témoignage de Raoul. Et vous, allez-vous remettre le masque dans les transports en commun, comme vous le demande la ministre de la Santé ? Vous venez témoigner au 32-16.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h54 sur RMC, l'heure de Nicolas Poincaré.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui du président du Tadjikistan, petit pays d'Asie centrale, qui reçoit aujourd'hui la visite de Vladimir Poutine.
Oui, et on en parle parce que les déplacements de Vladimir Poutine sont devenus rarissimes. Il n'a quitté la Russie que 2 fois en 2 ans pour se rendre une fois en Inde, une fois en Chine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, naturellement en février, il n'a pas bougé de Moscou. Et aujourd'hui, il a donc choisi de se rendre à Douchanbé, capitale du Tadjikistan. C'était l'une des 15 républiques soviétiques qui formaient l'URSS. C'était, et c'est toujours, la plus pauvre de ces républiques. Le pays est dirigé par le même homme depuis 29 ans. Il s'appelle Emomali Ramon. C'est un fils de paysan, un ancien militaire dans l'armée soviétique. Il est parvenu au pouvoir en 1994. Après l'éclatement de l'Union soviétique, le pays avait connu une terrible guerre civile entre les anciens communistes d'une part et les oppositions, notamment islamiques, d'autre part. Ramon représentait le camp des communistes et il s'est finalement imposé.
Et depuis, il dirige le pays d'une main de fer.
Et c'est peu de le dire. Il a gagné 5 élections présidentielles quasiment sans adversaire. Il a interdit tous les partis d'opposition, en particulier les partis religieux. Il dirige le Conseil des ministres, mais il dirige aussi les sessions du Parlement et il a la haute main sur le système judiciaire. Autant dire qu'il ne connaît pas la notion de séparation des pouvoirs. Mais depuis 2015, il est encore passé à la vitesse supérieure. Il s'est fait attribuer le titre de fondateur de la paix et de l'unité nationale, leader de la nation. Il bénéficie d'une immunité à vie qui lui garantit qu'il ne sera jamais poursuivi. Il a le droit de se représenter au présidentiel aussi souvent qu'il le souhaite. Il contrôle avec sa famille toutes les principales entreprises du pays et en particulier la plus grande banque. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent un régime tyrannique, des arrestations arbitraires, des conditions de détention déplorables dans les prisons. Il a 70 ans, le président Ramon, mais son avenir est assuré. Son fils a été élu maire de la capitale, Douchanbé, à 30 ans. Et il est donc le successeur désigné. Voilà le dirigeant que Vladimir Poutine a choisi d'honorer pour sa première visite.
Pour sa première visite depuis la guerre en Ukraine. En effet, visite à suivre. Et 6h56, Marie Dupin est avec nous.
RMC s'engage pour vous.
Marie, ce matin, des nouvelles révélations RMC dans le dossier du chlordécone aux Antilles.
Oui, souvenez-vous, on en avait parlé récemment dans RMC s'engage des habitants des Antilles, de Guadeloupe et de Martinique. Ils militent depuis des années pour que des sanctions soient prises contre l'État dans le scandale du chlordécone, ce pesticide dangereux utilisé massivement pendant près de 20 ans. Il y en a dans les sols, dans les eaux et dans le sang des Antillais. Nous avions recueilli le témoignage de Sophia Sabine qui travaille au CHU de Martinique.
Tous les habitants ici, de cette génération-là, on a vécu avec, sans le savoir en plus. Il y a quand même 92% de la population en Martinique, 95% en Guadeloupe, qui est empoisonnée.
Et les Antillais voulaient que des responsabilités soient reconnues. On en est où, Marie ?
Eh bien, pour la première fois, le tribunal administratif de Paris a rendu une décision hier à la suite d'une action collective lancée par 1240 victimes présumées. Dans une décision du 24 juin, le tribunal reconnaît, je cite, que les services de l'État ont commis des négligences fautives dans cette affaire. D'abord en validant l'homologation du produit sans pouvoir établir son innocuité et aussi en permettant aux fabricants de continuer à vendre du chlordécone par dérogation alors qu'il avait été finalement interdit. Maître Christophe Legvac est avocat, il est en charge de cette procédure.
C'est une bonne nouvelle, puisque pour la première fois, un tribunal indépendant a considéré que dans le dossier chlordécone, l'État était responsable et avait commis des fautes. D'avoir autorisé un produit que tout le monde savait dangereux et qui allait rester des siècles dans l'eau et la terre. Depuis 1975, le produit était interdit aux États-Unis et à partir de 1980 dans quasiment tous les pays d'Europe, sauf en France. Ce qu'elle a fait avec retard, ce qui en soi est une faute qui engage la responsabilité de l'État. Après, le tribunal ne va pas jusqu'au bout de la logique et pour le moment, on refuse d'indemniser au prétexte que nous n'avons pas assez de preuves pour le préjudice invoqué. Il reste encore un bout de chemin à parcourir et ce bout de chemin, nous allons le parcourir devant la cour d'appel.
Voilà, donc vous avez compris, la responsabilité de l'État est reconnue, mais pas d'indemnisation pour les victimes. Donc, elles vont faire appel et elles espèrent surtout que cette première décision de justice relance la procédure en vue d'un procès au pénal, puisque pour l'instant, les juges d'instruction ont annoncé leur intention de clore le dossier au pénal.
Évidemment, vous ne manquerez pas de suivre ces associations de victimes qui font appel. Il est 6h58, à tout de suite pour la météo du journal.
RMC, 6h-8h30. Apolline Matin.